6h à Paris, 5h en temps universel et 8h à Moscou.
RFI Matin.
L'heure du journal. Bonjour Fabrice Le Grillet.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
La fin du dernier traité de désarmement nucléaire entre la Russie et les États-Unis.
Le traité New Start avait été signé en 2010 et il a expiré dans la nuit. Un tournant majeur dans l'histoire du contrôle des armements dans le contexte international que l'on connaît. Un moment grave pour la paix, estime l'ONU. On y revient dans un instant.
Ukrainiens et Russes vont poursuivre les négociations aujourd'hui à Abu Dhabi.
Elles ont débuté hier, pas de grandes avancées. Moscou maintient la pression et menace de poursuivre les hostilités si Kiev n'accepte pas ces conditions. Par ailleurs, on a appris que le plus proche conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron s'est rendu à Moscou mardi. Une volonté d'une reprise de dialogue entre la France et la Russie. Les détails dans ce journal.
L'annonce du retrait immédiat de 700 policiers de l'immigration à Minneapolis.
Annonce faite par l'émissaire de Donald Trump qui ajoute toutefois que 2000 policiers resteront sur place. Dossier sur lequel s'est exprimé le président américain hier. Une approche plus délicate pourrait être utile selon lui. Donald Trump qui parle ailleurs ne cache plus sa volonté de nationaliser l'organisation des élections aux États-Unis. Une prérogative qui aujourd'hui appartient pourtant aux États. Explication dans quelques minutes.
Le traité New Start entre les États-Unis et la Russie a donc expiré cette nuit.
Traité de désarmement nucléaire que les deux pays avaient signé en 2010 et qui avait pour but de limiter chaque partie en termes d'ogives et de lanceurs. Une expiration qui marque donc la fin des grands accords bilatéraux en la matière et la transition vers un ordre nucléaire moins encadré. Depuis des mois, la Russie lançait des appels du pied à Donald Trump pour relancer ce traité New Start ou au moins le prolonger à minima d'un an. Anissa El Jabri.
À quelques heures de l'expiration du traité, c'était ce mercredi, Vladimir Poutine, selon le sherpa diplomatique du Kremlin, a abordé le sujet lors d'une conversation téléphonique avec Xi Jinping et déclaré, selon le compte-rendu officiel, « Nous agirons de manière réfléchie et responsable », une façon pour le chef de l'État russe de souligner, sans le dire, qu'il sait Donald Trump bien plus préoccupé par l'arsenal nucléaire chinois que par le sien. La presse légitimiste russe le rappelle, elle, régulièrement. Seuls Moscou et Washington sont pourtant à parité en la matière. Le quotidien Vedomosti ce mercredi citait lui un expert évoquant l'irritation de la Chine sur, je cite encore, une obsession américaine disproportionnée par rapport à la taille de son arsenal. Le porte-parole du Kremlin soulignait lui mardi, dans quelques jours seulement, le monde se retrouvera probablement dans une situation plus dangereuse qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Reste que le traité New Start était déjà quasi une coquille vide depuis août 2022 et l'annonce de la Russie de la suspension des inspections américaines prévues sur ces sites militaires dans le cadre du traité. Moscou avait alors assuré agir en réponse à des entraves américaines aux inspections russes aux États-Unis. Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
Et le secrétaire général de l'ONU s'est exprimé à propos de l'expiration de ce traité New Start dans la nuit, la qualifiant de moment grave pour la paix et la sécurité internationale. Antonio Guterres qui exhorte les États-Unis et la Russie à s'entendre rapidement sur un nouveau cadre.
Le traité New Start, on y revient dans le détail dans notre dossier de 7h, temps universel sur RFI.
La question du nucléaire qui sera aussi au cœur des discussions entre Américains et Iraniens demain à Oman. Le doute planait, mais les deux parties ont bien confirmé la tenue de ces pourparlers. Donald Trump qui, en attendant, maintient la pression, affirmant que le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, devrait se faire beaucoup de soucis.
La guerre en Ukraine et la Russie qui menacent de poursuivre les hostilités si Kiev n'accepte pas ces conditions.
Tant que le régime de Kiev n'aura pas pris la décision appropriée, l'opération se poursuivra. C'est l'avertissement lancé hier par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. De quoi renforcer les doutes sur les chances de succès des efforts diplomatiques alors qu'un nouveau cycle de négociations a débuté hier à Abu Dhabi en présence des Américains. Le négociateur en chef ukrainien a fait part d'un travail substantiel et productif. Les discussions vont se poursuivre aujourd'hui. Volodymyr Zelensky s'attend quant à lui à un nouvel échange de prisonniers dans un avenir proche. Et c'est dans ce contexte que l'on a appris que le plus proche conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron s'est rendu à Moscou mardi. Information révélée par plusieurs médias et que l'Élysée n'a pas démenti. Ce déplacement du haut diplomate français s'inscrit dans une volonté d'une reprise de dialogue entre la France et la Russie. Nicolas Falaise.
Sherpa, c'est le surnom que l'on donne aux conseillers diplomatiques des chefs d'État, puisque les Sherpas accompagnent les dirigeants lors des sommets internationaux, comme les Sherpas guident les alpinistes au sommet des montagnes. Les Sherpas peuvent aussi mener des discussions délicates. C'est apparemment le sens du déplacement à Moscou cette semaine d'Emmanuel Bonne, Sherpa du président français. Sa visite est une première depuis l'invasion de l'Ukraine il y a presque 4 ans. Et à Moscou, le diplomate français a rencontré Youri Ushakov, présenté comme son homologue, car conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Youri Ushakov, incontournable en Russie dès lors qu'il est question de l'Ukraine. La visite à Moscou de l'émissaire français n'est pas restée secrète bien longtemps. Elle a eu lieu au moment même où Emmanuel Macron déclarait que des démarches étaient en cours pour renouer les échanges avec Vladimir Poutine. Ces dernières semaines, les deux chefs d'État avaient évoqué la perspective d'un tel dialogue. Pour la France et certains de ses partenaires européens, l'enjeu est notamment de surmonter leur mise à l'écart par Washington.
Nicolas Falaise.
RFI, le journal de Fabrice Le Grillet, à la une, l'annonce du retrait immédiat de 700 policiers de l'immigration à Minneapolis.
Annonce faite par l'émissaire de Donald Trump dans cette ville du Minnesota secouée par des semaines de fortes tensions liées aux raids visant des personnes en situation irrégulière et marquée par la mort de 2 manifestants. Tom Homan qui ajoute toutefois qu'il ne quittera pas Minneapolis tant que tout ne sera pas terminé. 2000 agents resteront sur place. Dossier sur lequel s'est exprimé le président américain hier. J'ai appris que peut-être une approche plus délicate pourrait être utile. Fin de citation. Le Minnesota qui faisait partie de ces États américains dans lesquels Donald Trump estime qu'on lui avait volé sa victoire dans les résultats de la présidentielle de 2020, présidentielle remportée par Joe Biden. Question justement, et si le gouvernement des États-Unis nationalisait les élections? C'est en tout cas la petite musique que le président américain a fait entendre à plusieurs reprises ces derniers jours, persuadé sans preuve que certains États ont cherché à le faire perdre. Un enjeu à l'approche des élections de mi-mandat, le président américain agite publiquement ce qui est toujours passé pour une hérésie constitutionnelle, donner plus de marge d'organisation électorale au gouvernement central, au détriment des États fédérés. Explication Vincent Souriau.
À ce jour, le gouvernement fédéral a très peu à dire dans l'organisation des élections, y compris des scrutins comme la présidentielle. Tout se passe au niveau local. Et si Donald Trump, comme il le prétend, veut s'y attaquer, il devra passer par le Congrès. Mais ce que retient le constitutionnaliste Rick Pildis de l'Université de New York, c'est surtout le risque de politisation de ce processus au bénéfice du camp républicain.
Quand il dit des choses du genre « le gouvernement fédéral devrait s'emparer du décompte des voix dans certains États », d'une part, nous n'avons pas de fonctionnaires fédéraux chargés de ces fonctions, et d'autre part, sélectionner certains États pour des raisons partisanes, ce qu'il semble sous-entendre, ce serait aller beaucoup trop loin.
Jusqu'ici, ajoute Rick Pildis, les élus du Congrès, y compris républicains, se sont toujours montrés réticents à ce genre de réforme, afin de conserver le caractère décentralisé de la démocratie américaine. Vincent Souriau, Washington RFI.
Plus de 100 000 personnes évacuées dans la province de Larache, dans le nord du Maroc.
Des pluies torrentielles et de très fortes inondations touchent depuis plusieurs jours cette région et les conséquences économiques sont déjà importantes, notamment dans la zone de Ksar El Kébir où sont cultivées les terres agricoles qui approvisionnent la région de Tanger. Alexis Bédu.
Des terres agricoles noyées autour de Ksar El Kébir, la plaine connue pour ses champs de céréales, de pommes de terre et de betteraves sucrières est ravagée. Les pertes de production sont importantes. Abdellah El Fergui est président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, lui-même opérateur économique de Ksar El Kébir.
C'est l'arrière-pays de Tanger. Lorsqu'on connaît Tanger, c'est maintenant le deuxième pôle économique du Maroc après Casablanca. C'est Ksar El Kébir qui approvisionne toute la région de point de vue agricole, de point de vue main-d'œuvre, de point de vue artisanat.
Des quartiers entiers de Ksar El Kébir sont également inondés dans cette ville d'artisans de petits commerces. Abdellah El Fergui craint de nombreuses faillites d'entreprises. Il réclame la mise en place d'allègements économiques.
Au niveau des arriérés, au niveau des impôts, au niveau de diverses administrations, des banques, etc., nous avons demandé à ce qu'il y ait une commission de veille économique qui va traiter ces dossiers-là. C'est comme Covid, donc il faut les accompagner, ces entreprises.
La Confédération des TPE-PME qui dénonce la mauvaise gestion des ressources hydriques dans cette région, régulièrement et historiquement touchée par les inondations.
Toujours à propos d'intempéries, les conséquences de la tempête Leonardo qui a frappé la péninsule ibérique hier. Il est tombé plus de 40 cm de pluie ces dernières heures. Le Portugal déplore un mort. En Andalousie, le trafic routier et ferroviaire est paralysé. Il y a eu des milliers d'évacuations.
En France, une commission d'enquête demandée sur la fiscalité fiscalité des plus riches.
Demande du groupe Liot qui souhaite donc la création d'une commission sur l'imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés, ainsi que sur leur contribution au financement des services publics, sujet revenu sur le devant de la scène après des débats budgétaires particulièrement animés, mais aussi après les déclarations de l'ancien ministre de l'économie, Éric Lombard, qui affirmait mi-janvier que des milliers de Français parmi les plus riches ne paieraient aucun impôt sur le revenu, propos démenti par Bercy. Charlotte Urien-Tomaga.
L'objectif de la commission, mieux comprendre qui paye quoi et déconstruire certaines idées reçues sur la fiscalité. C'est en tout cas ce qu'explique le président du groupe Liot, Christophe Nejlen, qui entend utiliser son droit de tirage, mobilisable une fois par session, pour lancer cette commission d'enquête.
Le but est vraiment de montrer à quel niveau chacun contribue à la solidarité nationale.
Du côté du gouvernement, la porte-parole Maud Bréjon se montre plus réservée sur la nécessité d'une telle commission, estimant que l'exécutif travaille déjà sur la question.
Le projet de loi de finances, qui pourra désormais s'appliquer, contient des mesures précises pour lutter contre la suroptimisation fiscale.
Sans surprise, le groupe LFI soutient pleinement la création de cette commission et espère que ses conclusions nourriront le prochain projet de loi de finances. Antoine Léaumin.
Faire la lumière sur la fiscalité, à faire comprendre aux gens où on en est, qui paye quoi dans notre pays, donc c'est plutôt une bonne idée. Et ce sur quoi ça peut déboucher, eh bien, c'est que le prochain budget qui sera examiné par l'Assemblée nationale se fasse sur les bases de cette commission d'enquête et qu'on puisse citer abondamment cette commission d'enquête et ses résultats.
Cette commission et les propos d'Éric Lombard ramènent dans le débat politique le clivage entre ceux qui veulent taxer les plus riches et ceux qui, à droite, jugent cela contre-productif.
Charlotte Urien, Thomas Carr.
Du cinéma pour finir, James L. Brooks signe son grand retour avec le film Ella McKay.
Une comédie sur l'engagement, la famille et les choix qui font une vie. Cette question notamment est si gouverner un État était plus simple que de gérer sa propre famille. Le film est disponible dès aujourd'hui sur la plateforme Disney+. Elisabeth Le Quéré.
Du jour au lendemain, Ella McKay voit son rêve devenir réalité quand elle est nommée gouverneure de son État. Mais trois obstacles menacent son ascension. Les deux premiers sont des hommes, son mari, vexé que sa femme soit sous le feu des projecteurs, et son ex-mentor, un politicien, pas ravi de voir son ancienne protégée s'émanciper. Mais le principal ennemi d'Ella McKay, c'est elle-même. La jeune femme ambitieuse va apprendre à ses dépens que son franc-parler et son envie d'envoyer valser la fourmilière locale ne lui valent pas que des amis.
I'm really angry.
That's what not screaming will get you.
Champion toute catégorie de la comédie romantique, James L. Brooks se lance avec ce nouveau film sur la piste des grands classiques de l'âge d'or hollywoodien, avec son héroïne idéaliste jetée dans le grand marigot, ses dialogues brillants et son humour sophistiqué. Situé dans une petite ville des États-Unis en 2008, le film invite aussi à une certaine nostalgie, celle d'un monde où justice et compassion pouvaient encore être des valeurs cardinales en politique.
Voilà pour Ella McKay de James L. Brooks, un film que vous pouvez donc découvrir dès aujourd'hui sur la plateforme Disney+.
Et merci pour la reco au service culture. Merci Fabrice Legrier. C'était le journal sur RFI. Bienvenue à vous qui nous écoutez à Paris et Brazzaville. Il est 6h13, une heure de plus à Goma. Ravi de vous retrouver avec toute la rédaction à Paris, nos correspondants, nos envoyés spéciaux à travers le monde. On est ensemble pour les trois prochaines heures et notre tour du monde quotidien de l'actualité. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, de ce traité New Start qui a expiré dans la nuit, un accord entre Russie et États-Unis de limitation de l'armement et de contrôle mutuel sur cet armement. Franck Alexandre, notre spécialiste défense maison, nous dit tout sur le sujet à 8h. On en parle aussi dans la Fabrique du Monde. Et vous allez l'évoquer avec votre invité tout à l'heure, Arnaud Pontus. Bonjour.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Il sera dans nos studios à 7h20, l'ancien chef d'état-major des armées françaises, le général Pierre de Villiers.
Oui, le général Pierre de Villiers a plus de 40 ans de carrière militaire au compteur, chef d'état-major des armées françaises de 2014 à 2017, jusqu'à sa démission pour cause de désaccord avec le président de la République. Il reprochait alors à Emmanuel Macron la baisse des crédits de la défense. Aujourd'hui, il appelle au réarmement de la France et dans son livre, pour le succès des armes de la France, il constate que nous avons changé de monde et qu'il est temps de se réveiller. Dans le nouveau désordre mondial, avec la guerre en Ukraine, la fin du dernier traité nucléaire entre Washington et Moscou, face aux menaces, il estime que le budget de la défense doit être porté à 100 milliards d'euros par an. Sinon, la France sera faible et la faiblesse attire toujours les fort, écrit-il. Le général Pierre de Villiers est avec nous à 7h20, heure de Paris.
Arnaud Pontus, à tout à l'heure. Également au programme ce matin, les négociations sur l'Ukraine, celles sur les minerais critiques aussi, ça c'est à Washington que ça se passe. Cobalt, coltan, des dizaines de délégations du continent en discutent avec les autorités américaines depuis hier. On en parle avec le journaliste et chercheur à l'IRIS, Guillaume Pitron, grand invité Afrique des RFI ce matin. Entretien à suivre dans une demi-heure, l'Afrique qui regorge de ses métaux.
Tu t'appelles comment?
Moi, Babyface.
Babyface comment?
Babyface Nelson. Babyface Nelson, blond la quarantaine.
Vous emmerde tous.
Du haut de ses 1m80, le double de sa quarantaine.
Tu as compris, bien sûr.
Vu qu'en quarantaine,
je n'ai pas vu mon
l'ombre de tes mains.
J'aurais pu crever.
Oui, ça, j'aurais pu.
J'aurais pu laisser
des traces sur ton cou.
Je ne demandais
qu'un peu d'amitié.
Allez vous faire foutre.
Tous autant que vous êtes.
Vous pouvez crever.
Je m'en lave les mains.
Ils ne sont pas plus sales.
Plus sales que les vôtres. Regardez, il est bien.
Tu t'appelles comment?
Moi, Babyface.
Babyface comment?
Babyface Nelson.
Il s'appelle comment?
Lui, Babyface.
Babyface comment?
Babyface Nelson.
Babyface,
Babyface,
comment?
Babyface, Nelson.
Tu t'appelles comment?
Mais qu'est-ce que vous croyez?
Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui se fait baiser par n'importe qui se fait baiser n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui et se faire baiser par n'importe qui, tu n'es pas une pute.
Je suis bien d'accord.
C'est de la merde.
Thank you.
son à don dans tes oreilles. Yo man.
Attends, j'ai des potes qui font de la radio amateur. On va aller les voir.
Principe actif, 102.4 FM.
Yeah, ya llego, ya llego.
Tô cansado.
Luz do Brasil.
Ai.
Yeah.
Já está aqui.
Ya llego, ya llego, ya llego. Con la soca reggae. Disco junkie. Ya llegó, hermanito del barrio.